Bonjour, amis de Radio B, la radio des bonnes ondes. Vous êtes dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Aujourd'hui, un grand musicien de fin du 19e et début du 20e. Il est né en 1853 et est décédé en 1929. Rappelons que Debussy avait à peu près a traversé la même période à 10 ans près. Il s'agit d'André Messager. André Messager qui s'est illustré dans une première carrière d'organiste, puis de chef d'orchestre et de compositeur. Il fut l'élève, puis l'ami de Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns. Et il a beaucoup travaillé avec eux. Camille Saint-Saëns l'estimait beaucoup au point de lui reprocher de perdre son temps à diriger de la musique au lieu d'en composer, car il adorait sa musique. Pour le situer, il a été le dédicataire de Péléas et Mélisande de Debussy, et dont il a assuré la création. C'est dire l'importance de sa stature au niveau musical en tant que chef d'orchestre. Il est aujourd'hui surtout connu pour des œuvres que je qualifierais de légères, dans tout le sens positif du terme, et nous allons découvrir ses opérettes, puisqu'il s'agit d'opéra bouffe ou d'opérettes, qui se jouent encore partout sur les scènes du monde entier. Mais démarrons par une curiosité, une messe dite des pêcheurs, qui fut coécrite par André Messager et Fauré, pour que les pêcheurs et un village entier le chantent. Donc écoutons un extrait de cette messe des pêcheurs.
André Messager, qui naît le 30 décembre 1853 à Montluçon, va suivre une formation musicale particulièrement solide, puisqu'il va se former à l'école de Niedermeyer, très grand pédagogue, enfin très grande école auprès de Eugène Gigou. Il va suivre l'enseignement de Gabriel Fauré. Il va travailler pour la composition avec Camille Saint-Saëns, avec Locel pour le piano, et puis Clément Loret pour l'orgue. C'est dire que la formation de Messager est d'une extrême solidité et qu'elle est tout à fait complète. Et Bruno l'a dit, il sera un très grand chef d'orchestre reconnu, mais il sera aussi, bien sûr, organiste au chœur de Saint-Sulpice, et puis organiste ensuite à Saint-Paul, Saint-Louis et Sainte-Marie des Batignolles pendant des années. Sa carrière le mènera d'ailleurs, et j'en parlerai plus tard, à Bayreuth, au temple du wagnérisme, où il sera accompagné, de Fauré. Il aura dirigé les concerts Lamoureux, il aura fait une tournée triomphale en Argentine, il sera élu à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà un personnage musical, voilà un compositeur qui, par la légèreté, et ce n'est pas du tout péjoratif de ses compositions, c'est de l'opéra comique qu'on appelle l'opérette. Il y a un bon mot qui dit que l'opérette, c'est de l'opéra comique, vraiment comique. Voilà. C'est un petit peu le vaudeville, mais transposé, bien sûr, dans le domaine lyrique, dans le domaine musical. Alors, nous allons écouter un premier extrait de son opérette. Il composera tout de même 23 opérettes, ce qui est considérable, dont les principales, dans l'ordre chronologique, seront la Basoche, Véronique, Fortunio, que nous écouterons tout à l'heure, et l'Amour masqué. Écoutons d'abord un air que nous avons peut-être tous plus ou moins fredonné, ou en tout cas entendu à la télévision, un air très célèbre. C'est le picotin de l'âne de ci, de là, de l'opérette Véronique.
De ci, de là, carin-carin, chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompense, va. De ci, de là, carin-carin, chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompense, va. De la voir si joyeuse, je me sens triste malgré moi.
Oh, que c'est amusant un âne, mais qu'apprécieux entre nous.
Bien moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne.
De ci,
de là, carin-carin, va chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompensera.
De ci, de là,
carin-carin, va chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompensera. En cueillant des fleurs dans l'herbe, elle accueillit mon cœur, je crois.
Oh, l'eau, que l'on mette bien vite, Marguerite, et contre les coups.
Combien je voudrais à lui clos interroger la Marguerite.
De
ci, de là, carin-carin, chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompensera.
De
ci, de là, carin-carin, chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, carin-carin, le picotin te récompensera.
Di difficile de mieux écrire de la musique quand on sent la maîtrise du chef d'orchestre, la maîtrise de la composition, mais aussi beaucoup, beaucoup d'inspiration. Les personnages de Véronique, eh bien, c'est du Courteline, en fait. Et il faut prendre cela avec, comme quand on regarde une pièce de Molière ou une pièce de Courteline, tout le monde social est décrit. Nous avons Évariste Coquenard et son épouse Agathe, qui sont des fleuristes, vraiment des petits bourgeois, qui sont traités par le librettiste dans ce sens-là. Ils sont moqués. Agathe a un amant. Qui est cet amant? C'est Florestan, le vicomte de Valincourt, qui va devoir, par obligation, se marier avec Hélène de Solange. Hélène de Solange, qui va découvrir que son futur mari, en fait, ne l'épouse que parce qu'il est criblé de dettes et que le roi lui impose de se marier. Elle va donc avoir une réaction, alors pour le coup tout à fait sérieuse, c'est-à-dire qu'elle est très vexée et que nous n'avons pas dans ces personnages d'opérette des personnes fades. Hélène de Solange va réagir et va se venger. Elle va devenir Véronique. Véronique, petite fleuriste, elle se fait embaucher. Et qui va séduire Florestan, qui lui-même considérait que le mariage allait être pour lui un fardeau et une obligation. Et il va tomber amoureux de Véronique sans savoir que c'est sa future femme, puisqu'ils ne se connaissent pas. Et donc toute la trame est là. Et un peu, on tourne en dérision à la fois les bourgeois, on tourne en dérision ce vicomte léger qui finalement va connaître l'amour. Et le personnage central, c'est Véronique, qui est une jeune fille, certes, en son époque où les femmes étaient peut-être traitées différemment des hommes, mais justement, elle se rebiffe et elle devient le personnage principal, et c'est elle, finalement, qui fait la trame. Écoutons un autre air fameux, « Pousser l'escarpolette » duo avec les deux personnages principaux.
Méchante, vous voulez rire.
N'est-ce pas le meilleur parti?
Vous riez quand moi je soupire.
Vous soupirez, c'est très gentil. Ça, c'est gentil.
Croyez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon tourment.
Mais ce soir, à votre futur, n'en direz-vous pas tout autant?
Ma future?
Et oui, vraiment. Votre futur, ce soir même, la pauvre créature.
Aura-t-elle vos jolis yeux, le charme exquis de ce corsage, ce teint si blanc, si merveilleux, et la fraîcheur de ce visage?
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
À quitter cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique.
Mais je pense à votre futur, puis je lui voulais.
futur.
Et oui, vraiment, votre futur. Et le mot qui mène énormément la chère créature.
Aura-t-elle votre gaieté et votre grâce enchanteresse, l'éclat de ce rire argenté, enfin cette fleur de jeunesse.
Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien.
Non, non, pour moi la femme unique, c'est vous, c'est toi, c'est Véronique.
Je vous crois, monsieur Florestan. Je vous crois, mais en attendant.
Eh bien voilà, c'est clair, le vicomte de Valincourt, Florestan, est tombé amoureux de Véronique sans savoir que c'était sa future épouse. Elle l'a charmée et elle tient sa vengeance parce qu'elle a quand même une petite rancune. Et nous allons maintenant écouter un très bel air, l'air de la lettre, qui continue et fait tomber l'opérette dans le drame, mais je vous rassure, le final sera... Ils seront très heureux.
Nous allons consacrer quelques instants maintenant à l'opérette Fortunio, qui a été donnée en 1907, comédie en quatre actes, d'après l'œuvre d'Alfred de Musset, Le Chandelier. Le Chandelier, c'est en fait un faux amant qui cache un vrai amant. Le synopsis de cette opérette est assez amusant. Monsieur Landry, qui est un notaire réputé, a pour épouse Jacqueline. Et puis, Maître Subtil fait embaucher son neveu Fortunio dans l'étude. Fortunio préférerait rentrer dans son village. Nous écouterons d'ailleurs l'air qui est consacré à cela. Arrive un capitaine de cavalerie, Clavaroche, qui devient l'amant de Jacqueline, qu'elle cache dans une armoire. Bref. Et puis, le chandelier va devenir, en fait, Fortunio, qui s'éprend véritablement de Jacqueline, qui est amoureux d'elle, qui est un soupirant timide, qui, en tant que chandelier, cache, en fait, on croit que c'est lui le soupirant, ou l'amant, ou le futur amant, mais en fait, c'est le capitaine Clavaroche. Et puis, Fortunio va ouvrir son cœur à Jacqueline, et Jacqueline va tomber amoureuse de lui. Il va s'en suivre un stratagème monté où Clavaroche envoie un faux billet à Fortunio pour le piéger, pour le faire entrer dans la chambre de Jacqueline. Il y entre, mais en fait, elle ne le cache pas dans le placard initial, elle le cache ailleurs et on ne le trouvera pas. Et Jacqueline et Fortunio vont tomber éperdument amoureux. Et à la fin de l'opérette, c'est un clin d'œil amusant, elle va, Jacqueline, remettre à Clavaroche un chandelier, autrement dit, le chandelier qui est le faux amant va devenir le vrai, et le vrai initial va devenir le faux et se transformer symboliquement en chandelier. Écoutons un très bel air qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les très beaux airs de soliste des opéras de Massenet, parce que c'est magnifiquement composé, c'est souple, la mélodie, l'invention mélodique est très belle, et puis elle se glisse dans un écrin orchestral qui lui aussi est très beau, avec l'utilisation parfois d'instruments, notamment la harpe qu'utilise régulièrement Massenet. Mais c'est bien deux compositeurs distincts, mais leur style parfois se rapproche. Écoutons cet air chanté par Fortunio, qui ne pense qu'à rentrer en fait dans son village plutôt que de travailler dans une étude notariale. Et il s'appelle cet air « J'aimais la vieille maison grise ». toujours dans l'opérette Fortunio. Un deuxième air qui est cette fois est chanté par Jacqueline. Vous avez entendu, vous venez d'entendre Fortunio dans cet air très nostalgique où chacun parle de soi, où les personnages en fait parlent à eux-mêmes et révèlent au public le fond de leur personnalité, leurs pensées les plus profondes. Eh bien, cette fois, c'est Jacqueline qui chante « Lorsque j'étais enfant », air aussi nostalgique en fait que le précédent. Troisième air que nous consacrons à Fortunio, c'est un air qui est beau également. C'est Fortunio qui s'exprime dans l'air qu'on a intitulé « Si vous croyez que je vais dire », sous-entendu « Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer ».
même à cette flamme. Quelques grisettes, j'en suis sûr. Et vous, madame, qu'en pensez-vous?
Après Fortunio, venons-en à la basoche. Qu'est-ce que la basoche ? Eh bien, la basoche, c'était une guilde, une organisation professionnelle des juristes parisiens, dite guilde à l'époque, qui avait été créée en 1303, et l'action se déroule en 1514. Et en fait, les juristes parisiens et celui qui était élu comme chef de la basoche, avait le droit de se costumer comme le roi, avec la couronne royale et le manteau. C'était presque un peu, je connais mal en fait cette coutume à l'époque, mais on peut peut-être le comparer un peu au fou du roi. Donc il avait le droit de se parer comme le roi. Et l'opérette joue de cette confusion. Clément Marot, qui est le roi de la basoche, va créer la confusion avec le roi Louis XII, qui lui-même doit recevoir sa future, la princesse Marie d'Angleterre. Et en fait, le roi va être confondu avec le roi de la basoche, puisqu'il a la couronne et le manteau. Il est en l'occurrence marié à Colette, donc les deux personnages principaux sont Clément et Colette, ce sont eux que nous allons écouter. Et les deux autres personnages très importants sont le roi et Marie d'Angleterre, puisque confusion il y aura dans tous les sens, puisque Marie pense que son futur époux sera le roi de la basoche. Colette ne comprend pas que son mari puisse convoler avec Marie d'Angleterre. Enfin bref, tout ça est un petit peu compliqué, comme quelquefois dans les opérettes, mais donne des airs absolument magnifiques. Nous commencerons par un air de Colette qui parle de Clément, son mari.
De place en place, suivant.
les frontières entre l'opérette et l'opéra ne sont pas hermétiques. Si Véronique a vraiment un scénario, je dirais, d'opérette et beaucoup de légèreté, mais avec une musique d'une finesse extrême, là, on est presque dans l'opéra, voire on est dans l'opéra. Et ça fait penser à ce grand compositeur, Offenbach, auquel nous avons consacré une émission, et où on a à la fois vraiment des bouffonneries, mais aussi des musiques absolument sublimes qui sont réellement des grandes musiques d'opéra. Après avoir écouté donc Colette qui parlait de Clément, eh bien maintenant écoutons Clément qui nous dit « Quand tu connaîtras Colette ».
Quand tu connaîtras Colette, amie, tu m'auras compris. C'est sa grâce mignonnette, ses yeux, sa voix de fauvette, son sourire qui m'ont pris, ne t'en montre pas surpris. Quand tu connaîtras Colette, amie, tu m'auras compris. Sa candeur, son air honnête, achevèrent ma conquête. Mon parti fut bientôt pris, je la voulais à tout prix. Quand tu connaîtras Colette, ami, tu m'auras compris. Ce n'est pas d'une conquête à qui l'on compte fleurette d'une dame de Paris que mon cœur se sent épris. Colette, amie, tu m'auras compris. Amie, tu m'auras compris.
Après Fortunio, après Véronique, l'une des grandes opérettes maintenant qui est L'amour masqué, 1923, sur un livret fameux de Sacha Guitry. L'opérette est d'ailleurs créée par l'épouse de Sacha Guitry, Yvonne Printemps, et Sacha Guitry lui-même, que nous allons écouter dans un instant. Alors, le livret est un peu leste, on dira très léger. C'est une femme qui a deux amants, d'où l'air que nous entendrons, un baron et un maharaja. Et puis elle tombe éprise d'un homme qu'elle voit en photo chez un photographe. Elle vole la photo. L'homme vient la récupérer. Mais cette photo, en fait, le représente quand il a 20 ans de moins. Donc, elle pense que c'est le père qui vient récupérer la photo de son fils. Enfin, tout un quiproquo. Ensuite, un bal où deux servantes de elle, puisqu'elle s'appelle elle et l'homme lui. C'est leur nom dans l'écriture de Sacha Guitry, vont tenter de s'occuper du baron et du maharaja pour qu'elle puisse se jeter dans les bras de son nouvel amant. Elle enverra ensuite promener, si l'on peut dire, le baron et le maharaja, qu'elle n'aime pas en fait, mais qui l'entretiennent, disons les choses, et pour vivre un grand amour avec lui. Alors écoutons avec la voix inimitable Sacha Guitry qui traîne un peu sur certaines voyelles, enfin avec un style un peu suranné aujourd'hui. Viens s'il est vrai.
Viens s'il est vrai que tu m'attends, viens dans mes bras que je te tends, mets ta rose auprès de ma rose. Offrir son bras, c'est vraiment peu. Et puisqu'on peut t'offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses?
Entre tes bras que tu me tends, sais-tu pourquoi, toi que j'attends? Je me blottis, je me pose. Sais-tu de moi certaines choses? Sais-tu pourquoi, toi que j'attends? Je
cherchons pas de raison. Les mots ne sont plus de saison lorsque déjà les corps se frôlent. Tu m'attendais, je suis venu, mais puisque tu veux l'inconnu, l'inconnu veut garder son rôle. Je ne sais pas faire la cour, mais dans l'art de faire l'amour, on m'a dit que j'étais un maître. Mon masque tient, garde le tien, car j'aimerais beaucoup demain pouvoir ne pas te reconnaître.
Entre tes bras, quand tu me tiens, si tu pourrais croire, je sais si bien souscrire à ce que tu proposes. Si tu pourrais croire, je suis ta chose, je suis ta chose à ce point-là. Si tu pourrais croire,
ton masque de velours noir, quand tu tressailles, je crois voir toutes les belles inconnues qui passèrent sur mon chemin, dont je n'ai pu toucher la main, et qu'hélas je n'ai jamais eu, jamais jusqu'ici, mais ce soir, je vais donc toutes les avoir, baisant leurs lèvres sur les tiennes, et quant aux bouches qui t'ont plu, et que tu n'as pas eu non plus, viens donc les baiser sur la mienne.
Entre tes bras, quand tu m'aideras, va, trahis-moi bien. Si ton plaisir en est extrême, oui, trahis-moi, mais moi je t'aime. Et dans tes bras, quand tu m'aideras, pour trahir bien, je porte.
Yvonne Printemps, que nous venons d'écouter aux côtés de son mari Sacha Guitry, était vraiment aimée énormément par Francis Poulenc, auquel nous avons consacré aussi une émission. Ces deux personnes ont donc traversé le XXe siècle et se sont éteintes dans les années 70. Et en fait, nous sommes dans la parodie de l'amour, les jeux de l'amour, d'ailleurs comme le titre de l'opérette, l'amour masqué. Tous les deux ont joué avec l'amour, avec la séduction, avec le désir. Sacha Guitry aura 5 épouses, nombre de maîtresses. Quant à Yvonne Printemps, elle aura un nombre incalculable d'amants, et dont Pierre Fresnay, qui lui-même avait beaucoup de maîtresses. Donc nous sommes vraiment dans le jeu de la séduction, le jeu de l'amour, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de vérité aussi. Et donc il ne faut pas prendre ça totalement à la légère, c'est une leçon de vie et c'est du théâtre. Écoutons maintenant cette chanson très connue que toutes les grandes cantatrices du monde chantent, « J'ai deux amants ».
J'ai deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. C'est bête, les hommes, ils me donnent la même somme, exactement par mois, et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double à chaque fois, et ma foi, ils me croient. Que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de...
seul amant, c'est ennuyeux, c'est monotone, soupçonneux, tandis que toi, c'est vraiment mieux. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, on les ferait marcher sur la tête, facilement, je crois, si par malheur ils n'avaient pas. À cet endroit précis des ramures de bois qui leur vont et leur font au front courageux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme. Dieu, que c'est maintenant. Alors, vous pensez de...
Nous accomplissons dans cette émission une sorte de cycle. Bruno a présenté comme premier morceau à l'écoute, la messe des pêcheurs. Cette messe des pêcheurs a été composée par Messager et par Fauré. Nous avons, je l'espère, réussi à restituer à Messager la très grande place qu'il tient dans la musique française, avec des musiciens de son temps qui, eux, sont restés plus célèbres, Fauré, Saint-Saëns, puisqu'il a travaillé avec eux, Debussy, Bruno l'a dit, qui a dédicacé, c'est peu dire, qui a dédicacé Péléas et Mélisande à Messager, c'est peu dire, parce que lorsqu'on connaît la sévérité de Debussy, des jugements de Debussy sur ses compatriotes en particulier, et sur les autres musiciens en général, ce n'est pas rien, et c'est à Messager que Debussy confie la direction de la création de Péléas. Un cycle donc, puisqu'il a commencé par la messe des pêcheurs, composée par Fauré et par Messager. Et la fin de ce cycle, que nous allons écouter maintenant, c'est ce qu'on appelle « Souvenir de Bayreuth ». Fauré et Messager se rendent à Bayreuth, donc le grand temple du wagnérisme. Ils en reviennent et composent ensemble une sorte de pastiche, de caricature, en tout cas d'amusement, sur les principaux thèmes des opéras de Wagner pour piano à quatre mains, donc composés tous les deux. Écoutons un passage de cette œuvre amusante. Thank you.
Nous avons écouté au cours de cette émission tout d'abord le « O Salutaris Hostia » extrait de la « Messe des pêcheurs ». Messe des pêcheurs qui avait été écrite pour les habitants de Villerville-sur-Mer, donc des amateurs qui chantaient. En ce sens, la version que nous avons choisie respecte, alors nous sommes loin de Villerville en Normandie puisque nous sommes à Barcelone, mais il s'agit du centre culturel La Modèle qui fait chanter des pénitenciers, un chœur de pénitenciers, donc vraiment comme à Villerville, des amateurs. Ensuite, nous avons écouté la très grande chanteuse Barbara Hendricks dans « De ci, de là », extrait de Véronique, puis poussé la scarpolette par des très grands chanteurs de ce style, à savoir Michel Dance et Maddy Mesplé, qui aura beaucoup chanté l'opéra français et qu'il faut écouter parce qu'elle a des aigus et un phrasé inimitables. Puis l'air de la lettre par Yon Dubruc, baryton, dans une mise en scène de Michel Faux, qui aime beaucoup les opérettes, nous y reviendrons prochainement. Puis Fortunio Troisère, J'aimais la vieille maison grise par Julien Bert et l'orchestre de l'Opéra de Lyon, suivi par Anna Nebretko, très grande cantatrice mondialement connue avec le Philharmonia de Prague dans « Lorsque j'étais enfant ». Et enfin, « Si vous croyez que je vais dire » par Gilles Cachemaille avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon. À noter que très souvent, ces œuvres sont données à Lyon. Elles le sont aussi, puisque nous sommes à Bourg-en-Bresse, ça n'est pas si loin. À Saint-Étienne, qui n'est pas loin de Montluçon, et donc Saint-Étienne s'est fait une quasi-religion de monter des opérettes, et notamment les opérettes de messagers. Donc je vous invite à y aller, j'y ai personnellement vu Véronique dans une version magistrale. Ensuite, pour ne pas perdre le fil, nous avons eu deux extraits de La Basoche, avec Liliane Berton et l'orchestre Colonne, puis Henri Leguet et l'orchestre Colonne, issu de la même représentation. Enfin, L'amour masqué avec les incomparables Sacha Guitry et Yvonne Printemps, certes qui date un peu, mais ce style reste d'une grande causticité et a beaucoup de classe. Puis J'ai deux amants par la très grande cantatrice d'opéra Véronique Jans. Et nous avons terminé par deux pianistes magistraux, Pierre-Alain Volonda et Patrick de Hooge, dans ce pastiche des souvenirs de Beyrouth, coécrit par Messager et Forêt. Eh bien, nous vous souhaitons un bon mois à venir et nous vous donnons rendez-vous pour un autre compositeur d'opérette à peu près de la même époque. Nous allons adorer vous parler de lui. Il s'agit de
Rinaldo Hahn.
Eh bien, bon mois, à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.